toutes et à tous. Bienvenue pour notre émission Bonjour Jérusalem, qui sera consacrée ce jour au thème de la sagesse dans le Proche-Orient antique. En effet, aujourd'hui, nous nous poserons ensemble la question de savoir comment les hommes de l'Antiquité approchaient cette réalité, notamment en Égypte, en Mésopotamie et en Israël. Pour nous éclairer quelque peu sur ce thème, nous accueillerons le père Serge Théat, qui est belge, prêtre du diocèse de Namur. Il est docteur en théologie bibliste, historien des religions et passionné par l'histoire et la philologie du Proche-Orient ancien. À ce titre, nous le saluons et l'accueillons bien volontiers. Bonjour mon père, une première question s'impose inévitablement. Qu'est-ce donc que cette fameuse sagesse proche-orientale antique ?
Oui, bonjour Christine et merci déjà de m'accueillir au sein de votre émission. Bonjour également à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Grand Ciel de Chartres et plus largement d'Eure-et-Loire, dont je vous adresse mes meilleures salutations depuis la Belgique. Alors pour répondre d'emblée à votre première question, qu'est-ce que donc cette fameuse sagesse proche-orientale antique ? Eh bien, retenons dans un premier temps que c'est un courant de pensée, bien entendu. C'est une littérature répandue, attestée depuis fort longtemps, dans un vaste espace géographique qui comprend l'Égypte, la Mésopotamie, Israël et l'ensemble de tout le Levant. Alors, l'objet de la sagesse, c'est avant tout l'acquisition de l'art de bien conduire sa vie. Autrement dit, les sages antiques, ce sont des personnes qui essayent de vivre bien, qui recherchent à découvrir dans leur vie et dans le monde qui les entoure ce qui peut favoriser la vie ou, au contraire, ce qui va conduire à la mort. Les sages vont donc réfléchir sur toutes les grandes questions existentielles humaines. Qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? La souffrance ? Le mal ? L'existence humaine a-t-elle un sens ? Et lequel ? Comme vous pouvez déjà le percevoir, ces questions appartiennent à chaque génération humaine et elles se sont posées en tout lieu. Donc la sagesse a une dimension universelle, intemporelle, et cela devrait déjà nous interpeller tous et toutes.
Merci pour cette première approche générale. Si je vous comprends bien, mon père, la sagesse proche-orientale est donc de l'ordre du savoir, de l'ordre de la connaissance intellectuelle.
Oui, exactement, mais pas uniquement. Alors, je m'explique quelque peu, c'est effectivement un savoir, un enseignement, donc une acquisition de connaissances, un savoir qui va se réaliser d'abord à partir de l'observation de l'univers, de ce qu'il contient, afin de découvrir l'ordre du monde. Et in fine, la volonté de Dieu ou des dieux qui l'ont créé. Donc dans cette conception, le sage est celui dont la parole et le comportement sont en accord avec cet ordre universel. Le sage va vivre en accord avec cette réalité, va participer à son maintien par son agir. Voilà bien entendu ce qui est de l'ordre de l'activité intellectuelle. Mais la sagesse recouvre aussi d'autres notions, d'autres acceptions du terme. Alors si je prends le cas de la sagesse en Israël antique, vous avez un mot hébreu qui est fort utilisé dans la Bible. Ce terme est celui de rokma. Rokma signifiant la sagesse et qui a un sens beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que le savoir intellectuel.
Ah, alors on va faire un petit détour étymologique qui pourrait d'ailleurs intéresser nos auditeurs. Mais quel sens recouvre donc ce terme hébreu, Serge ? Comment vous le prononcez vous-même déjà ? Parce que ça paraît assez compliqué.
Rokma. Donc dans son sens original, la rokma, la sagesse, c'est d'abord une habileté manuelle, une maîtrise artisanale d'une technique, une compétence, une qualité d'un expert. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, sont déjà qualifiés de sages, par exemple un orfèvre, un forgeron, un menuisier, un tisserand, un constructeur, un architecte, un artisan, un paysan qui connaît très très bien son métier. Mais cette compétence n'est pas seulement d'ordre artisanal ou technique, elle concerne aussi le domaine de la vie en société et des relations humaines. Donc, par exemple, la fonction de pleureuse dans les funérailles, ça peut être aussi un diplomate qui est fort habile, un juge fort perspicace, ça peut être aussi un très très bon gouvernant, un très très bon commerçant. Donc, vous avez compris que dans ce contexte vaste, le contraire de la rokma, de la sagesse, eh bien, c'est l'incompétence, le manque de savoir-faire, le manque d'éducation, et sans oublier non plus que rokma, sagesse, c'est aussi un art de vivre.
Alors, mais pour reprendre vos mots, la sagesse est donc aussi un savoir-faire, une compétence, une aptitude manuelle, sociale, intellectuelle ou technique, un art de vivre également.
Oui, dans un sens plus large, la rokma, donc ce fameux terme hébreu signifiant sagesse, c'est un art de vivre. Art de vivre dans lequel vont intervenir le bon sens, l'observation, la pondération, la justice. Alors, incluant cette dimension intellectuelle, la sagesse a d'abord une visée pratique. Elle veut découvrir comment l'homme peut assurer son existence et arriver au bonheur. Le but est de trouver son chemin dans l'existence, finalement de réussir dans la vie. Alors, en Égypte, par exemple, on réussit dans la vie quand on assure le culte funéraire de ses parents, quand on fonde une famille, quand on respecte les règles du savoir-vivre, des convenances, quand on adresse une prière matinale au dieu du soleil, quand on évite de truquer des mesures, de déplacer des bornes dans des champs, quand on aide la veuve, l'orphelin, l'étranger. Voilà en quoi cela consiste. Et à un plus haut niveau, c'est finalement respecter l'ordre établi, faire preuve de réserve et de modestie. Voilà en quelque sorte le programme que tout jeune Égyptien de l'Antiquité, un jeune Égyptien bien né, devait apprendre de la bouche de son père ou de son maître, ce que toute grande personnalité reconnue devait transmettre aux jeunes générations. Et c'est ainsi que nous disposons de toute une littérature constituée de recueils didactiques, des sagesses, qui sont pour nous, actuellement, évidemment, une source irremplaçable de documentation sur la société égyptienne antique, également sur ses normes éthiques. Et il est à noter, bien sûr, et j'insiste assez fortement sur ce point, l'importance de l'expérience et de l'observation dans l'élaboration des sagesses.
Mais à vrai dire, qu'est-ce que l'importance de l'expérience et de l'observation ?
Eh bien, donc la recherche des lois de la réussite humaine, de la réussite de la vie humaine, de la vie professionnelle, ne va pas se faire d'abord par une révélation supérieure, mais plutôt par une expérience accumulée et par une observation très fine de la nature et de la société. C'est ainsi que dans l'Antiquité, on va dresser des listes de choses, de phénomènes qu'on observe en tentant de les classer. C'est ce qu'on appelle la fameuse sagesse encyclopédique. Cette sagesse va d'ailleurs se retrouver par la suite, évidemment, à la base des sciences de la nature. Ainsi, par exemple, en Mésopotamie, vous avez une liste sumérienne qui va reprendre toutes les espèces de serpents, toutes les espèces de chiens, d'animaux, de plantes que l'on connaît. Donc la sagesse va tenter ainsi de découvrir un ordre mystérieux qui préside à l'ordonnance des choses. Et comme dans tout le Proche-Orient ancien, le monde visible, le monde que l'on voit, le monde des phénomènes, le monde de la nature tel que je l'ai décrite, est entièrement dépendant d'un autre monde, le monde d'en haut, le monde des dieux, le monde divin. Alors, avant d'appartenir à l'homme, la sagesse, c'est d'abord et avant tout l'affaire des dieux, ou de Dieu, d'après selon qu'on soit en régime monothéiste ou polythéiste.
Alors, donc, la sagesse serait en réalité un reflet d'une sagesse des dieux ou de Dieu, comme
exactement,
vous venez de
l'expliquer. Et connaître l'ordre universel établi par les dieux ou par Dieu ne suffit même pas. Il faut encore s'y soumettre. et y conformer sa pratique. D'où un adage biblique que l'on retrouve déjà dans le livre du Siracide et qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur ». Alors la sagesse devient un comportement conforme à la volonté de Dieu qui s'exprime évidemment dans la Torah, la fameuse loi d'Israël. D'ailleurs, certains textes bibliques, parmi les plus récents, vont jusqu'à identifier cette loi divine, cette Torah, à la sagesse. Alors, comprise de la sorte, la sagesse n'est pas réduite à un effort humain. L'homme va tendre sans cesse à découvrir la sagesse par l'observation, par l'expérience, et cette observation va avoir du sens parce que l'univers obéit à des lois cosmiques, fruit de la volonté d'un Dieu créateur. C'est ce Dieu créateur est évidemment celui qui donne précisément la loi, la Torah, à Israël.
Ceci a l'air tout à fait spécifique au monde biblique de l'Israël antique, mais est-ce que c'est la même chose dans l'Égypte antique ?
Mais comme je le répète, la sagesse proche-orientale antique, c'est, on le sait maintenant, l'affaire des dieux. Et cela est valable, bien sûr, pour l'Égypte. Alors, dans ce dernier cas, elle est représentée plus particulièrement par deux divinités principales. Vous avez Maat et vous avez Thoth.
Ah, Maat et Thoth, vous pourriez peut-être nous en parler un petit peu ?
Eh bien, je commence par la première. Donc, je prends d'abord Maat, un mot qui revient très fréquemment dans les textes égyptiens de sagesse. Eh bien, ce terme va recouvrir une notion assez complexe. C'est une divinité, c'est une déesse. Elle est considérée comme la fille ou comme la mère du dieu solaire principal, Ré ou Amon. Elle est représentée par une femme assise qui porte sur la tête une plume d'autruche dressée. C'est en fait son hiéroglyphe. Et elle va représenter l'harmonie, l'équilibre du monde qui est sorti de l'acte créateur primordial, l'ordre de l'univers, la norme selon laquelle les dieux et les hommes doivent agir. Donc, comme vous le comprenez, la Maat, c'est à la fois le droit, la droiture, la justice et la vérité, le but et le devoir de toute action humaine. La Maat est donc un ordre voulu à l'origine par le Dieu créateur, ordre qui est d'ailleurs sans cesse menacé ou détruit, mais qui sera maintenu ou en tout cas restauré par les rois d'Égypte, les fameux pharaons. Alors, l'enseignement des sages va consister pour l'essentiel à montrer en quoi consiste cette Maat et comment chacun peut s'y attacher pour trouver en elle le chemin de la vie. La Maat peut être connue par l'intelligence, par l'expérience. Elle personnifie donc un état juste de la nature et de la société, et il est bon de s'y conformer. D'ailleurs, vous avez un rôle, une fonction première du pharaon, qui peut se résumer ainsi, il doit faire la Maat.
Et Thoth alors ?
Alors Thoth, voilà un autre dieu qui est lui-même secrétaire de tous les dieux, puisque en Égypte, n'oublions pas, nous avons affaire à un panthéon divin. Il est aussi considéré comme le patron des scribes, l'inventeur de l'écriture. Donc c'est le plus intelligent des dieux, c'est le plus savant. Alors au niveau de ces représentations, parfois même sur un même monument, vous avez une représentation en forme d'ibis, un homme à une tête d'ibis ou un babouin. En tout cas, ce dieu Thoth manie aussi bien l'écriture, le calcul, la magie. Donc c'est un dieu, comme je l'ai dit, très intelligent, qui maîtrise énormément de choses. Alors les scribes, en tant que dépositaires de la sagesse égyptienne, seront ses suivants et sa corporation. Si vous voulez, les scribes sont sous son patronage.
Père Théâtre, si vous le voulez bien, nous allons faire une courte pause musicale et nous allons reprendre cet entretien sur les sages de l'Antiquité.
Thank you.
Alors, nous revoici à nouveau sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bonjour Jérusalem avec Henri Simon et en compagnie du père Serge Théat qui développe pour nous la sagesse proche-orientale antique. Vous venez de parler à l'instant de scribes. Sont-ils les sages de l'Égypte ancienne, père ?
La grande renommée de la sagesse égyptienne tient en grande partie à l'éclat de la vie intellectuelle des milieux royaux, donc au niveau du milieu qui entoure Pharaon. Et qui gravite autour de Pharaon, ben ce sont justement les sages. Ils gravitent autour de lui car il est le premier dépositaire de la sagesse. Il est considéré comme étant fils du dieu solaire, le dieu Ré. Il est lié à Maat. Maat, qui, ne l'oublions pas, est fille ou mère du même Ré et qui forme sa cour ou son conseil. Alors, qui sont ces sages? Eh bien, ce sont des fonctionnaires cultivés qui vont occuper une place privilégiée dans la société. Ils remplissent plusieurs fonctions, des fonctions essentielles. Ce sont bien entendu des conseillers du Pharaon puisqu'ils se retrouvent à sa cour. Ils vont permettre à Pharaon de prendre de bonnes décisions, ce qui peut inclure notamment le recours à la divination et à l'interprétation des songes. Comme dans l'Antiquité, rappelons-nous, il n'y avait pas de séparation entre religion et politique. Une décision ne peut être positive et efficace que si elle est conforme à la volonté des dieux. Donc les sages vont utiliser tous les moyens permettant de discerner celle-ci. Les sages sont aussi les grands administrateurs du royaume. Une part importante de leur activité est ainsi consacrée à des registres, à des classements de documents, pensons à des archives royales, à des bibliothèques, à des documents administratifs en tout genre. Le sage est donc aussi un scribe qui manie l'écriture et la lecture, et ceci tout en étant polyglotte. Enfin, dernière fonction remplie par ces sages, ce sont les représentants de Pharaon auprès des souverains étrangers. Donc en quelque sorte, si vous voulez, ce sont des diplomates, des ambassadeurs, des messagers royaux et qui connaissent bien entendu les principales grandes langues étrangères de l'Antiquité au même titre que leurs homologues scribes et sages mésopotamiens par exemple. Donc c'est ainsi que les sages vont former une sorte de corporation internationale et il n'est donc pas étonnant de retrouver bien entendu des similitudes, des ressemblances entre les recueils de sagesse de peuples différents.
Alors nous savons maintenant qui étaient les rédacteurs à la base de ces écrits de sagesse en Égypte. Ces sages scribes se sont-ils livrés à une production importante et quel est le contenu de cette dernière?
Alors pour définir le contenu de la production écrite des sages scribes en Égypte, il nous faut d'abord préciser qu'au sens large, le terme de sagesse appliqué à l'ensemble des productions écrites du Proche-Orient ancien, désigne des œuvres de nature et de genres différents, qui ont en commun d'être dominées par une attitude éthique, fondée sur l'intelligence du monde et sur les principes qui le régissent, donc ou à tout le moins une inspiration à y parvenir. Voilà pour le sens large. Au sens restreint, alors, la sagesse désigne un genre littéraire dont la finalité première est d'enseigner des normes de conduite et de comportement sur lesquelles régler sa vie à partir d'une attitude éthique plus ou moins explicitée. La littérature de l'Égypte pharaonique va comporter nombre d'œuvres littéraires susceptibles de correspondre à ces deux acceptions, que ce soit la large ou la restreinte. Donc il nous faut savoir qu'on utilise aussi comme synonyme de sagesse les termes d'instruction, d'enseignement. En anglais, instruction, teaching. Ce sont des termes qui éveillent des harmoniques moins prestigieuses parce qu'ils évoquent évidemment le didactisme là où sagesse convoquait la philosophie. Alors peuvent être classés comme participant des sagesses au sens large, des textes comme le dialogue d'un homme avec son bât, ou encore le conte de l'Oisien. bien que ce dernier ait une forme de narrative, eh bien, ces deux textes visent fondamentalement à défendre une attitude éthique. Alors vous allez peut-être me poser la question, mais quel est le nombre de cette production? Eh bien, pour la période pharaonique, donc qui s'étend de moins 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand, on va dénombrer grosso modo 17 œuvres, plus des fragments qui sont classés, qui peuvent être classés comme relevant de la sagesse au sens restreint, parce qu'elles se présentent justement et explicitement comme des enseignements, comme des instructions à finalité éducative. Alors vous avez d'autres exemples. Si je prends par exemple le Moyen Empire, donc entre 2000 et 1550 avant Jésus-Christ, vous avez les enseignements de personnages tels que Orjedef, Kadjemi, Parhotep, Merikare. Si je prends le Nouvel Empire, ben, les enseignements d'Annie ou Amenemope.
Mon père, vous nous citez un certain nombre d'œuvres qui font donc partie d'un enseignement.
Exactement. Et pour désigner ces enseignements, l'Égyptien ancien va utiliser un terme. Ce terme, c'est le mot sébaït, qui signifie justement enseignement, instruction, et qui va s'appliquer par ailleurs à des instructions formulées oralement, sans mise en forme littéraire particulière, y compris celles que le pharaon lui-même juge nécessaire d'adresser à son peuple. Ce même terme, sébaït, désigne aussi des recueils de textes variés qu'un maître va donner à copier à son apprenti ou encore des listes de termes nommant les réalités de l'univers égyptien et qu'on infligeait aux étudiants pour leur inculquer un savoir encyclopédique sur le monde. Alors, il nous faut savoir que ce terme sébaït est formé lui-même sur un verbe seba qui signifie instruire, avec un certain nombre de d'implications coercitives. Parce que si je prends sa graphie hiéroglyphique, eh bien ça représente le signe d'un homme qui brandit un bâton. Un bâton donc montrant évidemment une acception de châtiment, ce qui veut nous dire que la sagesse égyptienne, c'est essentiellement un endoctrinement passif. On inculque des préceptes et au besoin par la contrainte. Voilà la raison de ce bâton. Donc on n'hésitait pas à battre les étudiants récalcitrants. Ce qu'on leur demande, ce n'est pas tellement d'être créatif personnellement, mais c'est de reproduire un enseignement qui est donné. Un enseignement est donné par un enseignant à un enseigné. Alors dans cet enseignement, le dialogue n'est pas du tout développé. Donc vous retrouvez évidemment des prescriptions, des prohibitions aux deuxièmes personnes. Vous avez aussi des aphorismes, des apophthegmes, des sentences qui sont énoncées à la troisième personne. Alors, occasionnellement, des narrations ou des descriptions.
Et dans tous ces enseignements, mon père, qui instruit qui finalement?
Alors, il est bon que le destinataire appartienne à une nouvelle génération. C'est quelqu'un qui s'apprête à affronter un nouveau stade de sa vie. Alors bien entendu, nous pensons spontanément à la relation d'un père avec son fils. C'est d'ailleurs la relation prototypique de la sagesse, c'est la plus fréquente. Donc le destinataire, le récepteur, c'est un adolescent. Un adolescent qui est en âge d'étudier l'écriture. C'est le plus souvent un jeune homme qui est déjà engagé dans sa vie professionnelle. Il faut qu'il ait, bien entendu, l'âge de raison pour comprendre l'enseignement, mais quand même assez jeune et à l'orée d'une carrière pour avoir besoin d'être éclairé sur la vie. La sagesse se reçoit et sanctionne donc un passage à un nouveau stade de l'existence. il est administré par la génération sortante à une génération montante. Alors, corrélativement, l'énonciateur, c'est un homme âgé, un homme d'expérience, un homme qui a déjà une autorité morale pour cautionner de manière crédible les préceptes qu'il va formuler. C'est ainsi que un âge avancé sied donc à l'énonciateur parce qu'il implique une expérience. Et qui dit expérience dit déjà signe d'une faveur divine.
Merci bien, Père Théâtre. Grâce à vous, maintenant, nous connaissons les énonciateurs et les destinataires de ces enseignements. Mais quel est leur contenu alors concrètement ?
Alors, les sagesses définissent des règles de comportement à travers des recommandations très précises et très concrètes. Vous avez de nombreux exemples qui émaillent la littérature égyptienne ancienne. Et parmi ces exemples, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, pour réussir sa vie, pour suivre un enseignement, il faut avoir sa propre maison, il faut gérer efficacement son bien, il faut veiller de son vivant à aménager sa tombe. Vous savez qu'il y avait un espoir de survie très important chez les anciens Égyptiens, assurer le culte funéraire de son père, de sa mère, voilà des impératifs de la piété filiale. Il faut fonder une famille, avoir un fils, bien traiter son épouse, se méfier des autres femmes. On interdit radicalement la pédophilie. Quand on a des amis, il faut bien les choisir, il faut les respecter. On les choisit parmi son rang. Et plus globalement, dans la vie sociale, il faut faire preuve de savoir-vivre en faisant en ayant beaucoup d'indulgence, de bienveillance, de générosité par rapport aux autres, mais tout en suivant l'étiquette et les convenances. Donc c'est ainsi que, concrètement, il faut bien se tenir à table en fonction de ses commensaux. Il faut marquer évidemment son respect à l'aîné et au supérieur, agir en conformité avec son rang, avec sa condition. Il faut respecter les règles du savoir parler et il ne faut pas évidemment oublier tous les devoirs qui sont du ressort religieux. Donc, adresser une prière matinale au dieu solaire, célébrer le culte, respecter les biens du dieu, les accroître par des dons.
Alors, nous avons fini cette émission pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver pour une prochaine émission, toujours avec le Père Serge Théâtre, qui va encore nous emmener un peu plus loin dans son énoncé des sages de l'Antiquité.